Rio 2016, les Jeux continuent. Voici Alexandre Coupal.
Pour cette édition du 17 septembre, et si vous aviez entouré les dates sur le calendrier, ben, vous constatez, alors que je le dis, que c'est l'avant-dernier jour de ces Jeux paralympiques aujourd'hui. Des paras qui vont se terminer demain avec un petit programme sportif. Philippe Asselin sera là pour nous donner tous les détails, mais disons que le gros est pas mal derrière nous et c'est déjà donc dans les dernières heures qui nous mèneront vers la cérémonie de fermeture que l'on se trouve en ce moment. Rapidement, je vous explique un peu de quoi cette émission sera faite. D'abord, en fin d'émission, dans une petite trentaine, à vrai dire 25 minutes à peu près, on va retrouver notre collaborateur Vincent Lochmann pour une dernière fois. Vincent qui est rédacteur en chef de Vivre FM, notre station cousine en France. Et les bilans, comment dire, les dernières émissions d'une série comme celle-là, c'est toujours facile à préparer parce qu'on fait dans le bilan. Coup de cœur donc de Vincent de ces Paralympiques à Rio, c'est ce qui est au programme. Sinon, on va clore également notre segment que l'on avait appelé les légendes. Philippe et moi avons deux légendes à vous présenter, des légendes bien sûr de l'histoire des Jeux paralympiques. Et le gros morceau, ben, c'est cette entrevue avec Benoît Huot qu'on a réalisé plus tôt. Benoît qui a longtemps incarné, je parle au passé déjà, c'est, je devrais pas parce que les Jeux sont pas terminés, puis Huot n'a pas encore annoncé officiellement sa retraite des Paralympiques, mais il a été et est toujours le visage du sport pour les personnes handicapées. Et cette Paralympiade à Rio n'a pas fait exception avec une autre médaille, un palmarès qui a continué de se bonifier dans son cas. Et comme je lui ai parlé plus tôt, je peux déjà vous dire qu'il sera question de ces nageurs ukrainiens dont on a parlé à cette émission, le flou qui entourait leurs conditions. Personne ne sait exactement quel handicap ils ont. Ils ne l'ont pas dévoilé et ce n'est pas apparent. Et c'est un peu dans un cas où il n'y aurait pas d'handicap, ben c'est un peu une illustration extrême d'un scénario de tricherie. Je parle au conditionnel parce qu'on ne sait pas, mais quand il y a du flou comme ça, ça soulève des questions. Alors, on va aborder avec Benoît. On a abordé et vous allez voir, il a des choses très, très, très intéressantes à dire. On est loin de la cassette et des commentaires un peu... insipide sur ce genre de questions explosives. Alors, c'est à ne pas manquer. On vous fera entendre l'entrevue donc dans quelques minutes à peine. Le temps de s'offrir les derniers résultats des 24 dernières heures. Et ça, ben, c'est Philippe Asselin qui s'en charge. Bonjour Philippe.
Bonjour Alexandre.
Alors, une autre bonne journée, j'ai envie de dire.
Aujourd'hui, une très bonne journée. Trois médailles du côté canadien. J'ai envie de commencer par hier, par contre. Hier, pas de médaille, mais en cyclisme, on a fini quatrième du côté de Marie-Ève Croteau. Quatrième et Shirley Gauthier a terminé, elle, sixième dans leur finale en T1 et T2. En sport équestre, Lauren Backwich a terminé sixième de sa finale. Et en natation, eh bien, on a eu Tess Rootfield qui a terminé sixième aussi de sa finale en 100 mètres libre S7. En 50 mètres libre masculin, Zach McAllister, lui, a terminé huitième dans sa finale. En basket, en fauteuil roulant, le Canada a défait la Chine 63 à 52 pour terminer cinquième de ce tournoi.
Féminin, ouais.
Voilà, en basket. Quand même un bon résultat pour l'équipe.
Ouais.
Terminé cinquième. Et en rugby, en fauteuil roulant, eh bien, le Canada a perdu 63 à 62, défaite crève-cœur contre l'Australie. Ce qui veut dire qu'ils affrontaient les États-Unis tout juste ce midi.
Okay.
Pour,
dans le cadre d'une demi-finale.
Exactement.
Ouais.
Et malheureusement, pour le Canada, eh bien, on a perdu par la marque de 60 à 55, ce qui veut dire qu'on jouera pour la médaille de bronze demain.
D'accord.
Dernière compétition canadienne. Et là, je reviens à nos médailles, Alexandre, puisqu'on a remporté en athlétisme la médaille d'or et un record paralympique en 19,42 secondes. C'est Michelle Stilwell au 100 mètres, donc féminin. en catégorie T52. Excellent résultat.
Absolument. Dont on avait parlé ici à l'émission, ouais. Politicienne, députée provinciale en Colombie-Britannique.
Exactement. Qui s'est offert un record paralympique pour son dernier tour de piste, du moins à ces Jeux de Rio. Sinon, deux autres médailles en voile, alors que le tandem de John McRobert et de Jackie Gray ont terminé donc avec la médaille d'argent après 11 courses. La voile, ça fonctionne. On dispute 11 courses et dépendamment des résultats. On était deuxième avant la dernière course. On a réussi à maintenir ce résultat. Et pour Paul Tingley, Logan Campbell et Scott Lute, et on a remporté la médaille d'argent donc au Kiar à 3. Donc, la médaille de bronze, pardon. Donc, c'est la dernière médaille canadienne, ce qui veut dire qu'on est rendu à un total...
Attention.
De 26 médailles, 8 de médailles d'or, 9 d'argent et 9 de bronze. C'est bon pour la 13e position. Donc, le Canada qui devrait terminer à cette position-là, numéro 13, la chance d'aller chercher une autre médaille demain. Et on va avoir quelques finales en natation ce soir. Je vous en parlerai en toute fin d'émission.
Comme on a pris l'habitude de le faire dans notre segment à surveiller. Merci, Philippe.
Plaisir.
Encore une fois, il aura brillé à ces Jeux paralympiques, remportant notamment sa 20e récompense paralympique en carrière, une médaille de bronze acquise aux 400 mètres libres S10 plus tôt cette semaine. Il fallait lui parler, on avait convenu de se parler et c'est ce qu'on a fait hier, alors que j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec Benoît Huot. Voici notre entrevue. Bonjour Benoît.
Salut Alexandre.
Alors, c'est terminé. Comment on se sent?
Hey, ça, ben, terminé, mais en plus de ça, terminé sur une bonne note. Ça a été vraiment une course que je m'y attendais pas. Ben, je m'attendais à avoir une bonne performance parce que l'entraînement avait bien été toute la saison. J'avais bien nagé sur cette distance-là, le 400 mètres. Mais je pensais pas pouvoir, à 32 ans, améliorer mon meilleur chronomètre personnel par 2 secondes.
Ouais.
C'est le genre d'affaires que tu fais quand tu as 14 ans. Tu sais, c'est très rare dans ma carrière d'un athlète. Mon chrono datait des Jeux de Londres en 2012 à 4 minutes 6, puis là, j'ai réussi à faire 4 minutes 4. Et ça faisait 4 ans que je n'avais pas amélioré de meilleur
temps chrono personnel. Oui, par 2 secondes, c'est quand même c'est très impressionnant. Tu fais référence, bien sûr, à la course aux 400 mètres pour lequel tu as gagné la médaille de bronze. Réglons ça tout de suite, Benoît, parce qu'on en a parlé ici pendant l'émission, puis c'est pas quelque chose qui a tant d'effrayé la manchette dans les médias au Québec, un peu, là, mais pas tant que ça. Ton opposition, tes adversaires, il y avait un certain flou qui planait au-dessus des nageurs ukrainiens. J'entends par là que c'était pas clair la condition ou enfin, on sait pas, ils ont jamais vraiment donné de détails sur leur handicap et si tu me corrigeras si je me trompe, c'est dans certains cas des nageurs qui ont déjà participé au jeu aussi ou enfin qui faisaient des compétitions chez les valides, non?
Oui, effectivement, c'est un petit peu nébuleux, puis même on peut utiliser le mot douteux, là,
ouais.
Toute cette histoire-là avec les Ukrainiens. Il y en a un qu'on avait rencontré pour la première fois l'an dernier lors des Mondiaux, puis ce nageur-là. Puis dans le fond, c'est une longue histoire, on pourrait s'en parler pendant des heures pour faire comprendre mieux les gens pourquoi qu'on a des doutes. C'est que nous, on compétitionne dans la catégorie les handicaps très légers. Alors moi, je suis né avec un pied beau. Quand on me regarde vraiment bien mes jambes, on voit que j'ai un plus petit pied, un plus petit mollet,
ouais.
Pas beaucoup de flexion dans la cheville. On voit qu'il y a quelque chose physique qui n'est pas parfait. Maintenant, certains athlètes ont des handicaps quand même légers et dont ces fameux 3 nouveaux Ukrainiens-là qui arrivent sur la scène sans qu'on s'y attende. Et puis, où est-ce que moi j'ai de la difficulté à accepter? C'est quand qu'ils se font classifier dans la catégorie, ils, par drôle de hasard, nagent beaucoup moins vite que ce qu'ils ont fait ici à Rio.
Okay.
Ceci dit, ce que ça fait, c'est que quand que les médecins, les physiothérapeutes, les personnes en charge qui font la classification des catégories prennent la décision pour mettre un athlète dans le système paralympique, ils voient sous un œil qui s'attendait pas nécessairement à voir
à cause
plus
de
tard.
l'écart, à cause des écarts.
À cause de l'écart. Pour vous donner un exemple, on va mettre ça en chiffres,
ouais.
Celui qui a gagné 200 mètres 4 nages et le 400 mètres libre hier soir et le 100 mètres d'eau ici, au 200 mètres 4 nages, lors de sa classification au mois de juin à Berlin, il a fait 2 minutes 20.
OK.
Ça vous dit pas grand-chose, mais il a gagné ici en... Il a fait 2 minutes 8 dans son temps. Alors, 12 secondes de différence. Et on apporterait n'importe quel expert de natation. Tu ne peux pas faire ça en 3 mois. C'est impossible. Et au 100 mètres d'eau, c'est encore pire. Il a fait 1 minute 7 à Berlin au mois de juin.
Ouais.
Il a fait 57 avec un record du monde par 2 secondes ici. 10 secondes sa performance de Berlin. Alors, c'est pour ça que moi, j'ai de la difficulté avec ça. Parce que peut-être que vraiment, les athlètes, ils ont leur place dans le système. Mais pourquoi, quand que c'est le moment de se faire positionner dans la catégorie, que là, soudainement, vous n'êtes plus capable de nager si vite comme vous l'avez déjà fait dans le passé? Parce qu'on a des références que les nageurs, dans les catégories valides, donc sans handicap, qui ont fait des performances pas
semblables.
Mal plus vite, c'est qu'est-ce qui est même semblable, ou même plus vite, c'est qu'est-ce qu'ils ont déjà fait ici cette semaine à Rio.
Okay. Mais Benoît, pourquoi t'es
c'est là le doute.
Pourquoi t'es pas plus fâché?
Parce qu'il y a toujours le doute.
OK.
Et je vais regarder, les jeux sont terminés là.
Ouais.
On se fait dire de rester positif fortement.
Okay.
Et peut-être que je vais avoir une voix plus forte quand les jeux vont être terminés, puis quand on va quitter Rio. Parce que oui, ça me fâche. Puis honnêtement, regarde, les trois Ukrainiens, ils ont fait 1, 2, 3. Et je ne sais pas si vous avez vu mon commentaire sur les réseaux sociaux cette semaine. C'est un petit peu sarcastique, mais j'ai dit quelque chose dans les lignes. Je suis premier au monde à l'extérieur de l'Ukraine.
Ouais, ouais, je l'ai vu.
J'avais terminé quatrième. Mais tu sais, c'est que honnêtement, c'est pour ça qu'il faut faire attention aux mots puis la façon qu'on les dit, parce que je veux pas que les gens pensent qu'on est mauvais perdant. C'est pas ça ici. C'est vraiment dans notre milieu, c'est extrêmement déjà difficile de comprendre le système de catégorie d'handicap, même pour une personne comme moi qui ça fait 20 ans qui est dans le mouvement puis dans le système, et que quand on voit des situations comme ça arriver, ça porte le doute. Et puis c'est pas juste ma catégorie qui a des difficultés dans ce sens. Il y a plusieurs autres sports et plusieurs autres catégories. Et puis c'est un grand défi que le mouvement paralympique doit faire face, bien plus que le dopage. Si on se tapait dans le dos le mois dernier quand on a banni les Russes, c'est un détail, selon moi, par rapport au système de classification, qui est vraiment beaucoup plus un enjeu, puis qui fait toute la différence, dans le fond, parce que si ces athlètes-là n'étaient pas là, bien, Caroline, j'aurais remporté 2 médailles d'or et 1 médaille de bronze.
Non, puis c'est de la tricherie. Et là, je ne parle pas spécifiquement de ce cas-là, mais le concept, ce concept-là, c'est de la tricherie avec un T majuscule. Là. Le dopage
Exactement.
Aussi, mais c'est quand même un peu plus nuancé, ou enfin un peu plus dangereux déjà là, le dopage.
Ouais.
Ben écoute, Benoît, c'est gentil d'avoir partagé ça avec nous. Il nous reste 2 minutes à peine. Juste un mot sur ton expérience, non seulement de ces Jeux de Rio, mais toi qui en as vu d'autres également. Pour avoir parlé à quelques athlètes, je sais que c'est pas tout à fait comme Londres. Là, Londres, ça a été un grand, grand succès, mais quand tu regardes ça là, avec une perspective plus large, ces Jeux de Rio, où est-ce qu'ils se situent?
Ah, ça a été, Alexandre, ça a été des jeux magnifiques. Les Brésiliens, on a entendu beaucoup de négativité alentour de Rio, mais les Brésiliens ont fait du mieux qu'ils le peuvent. Sincèrement, là, je sens pas encore présentement, je suis dans ma chambre sur le village présentement, là, et j'ai pas senti durant les 2 semaines des Jeux qu'on était au Brésil. Et ça fait drôle à dire, hein, mais c'est une bonne chose quand on vise la haute performance et on veut créer cette fameuse bulle paralympique ou bulle olympique. Alors vraiment, sur tous les détails, que ce soit les installations à la piscine, que ce soit la chambre dans laquelle je suis, l'air conditionné, l'Internet, le Wi-Fi, c'est des petits détails, le transport, mais qui font toute la différence sur des jeux qui sont un succès ou un grand succès. Et puis, effectivement, les Londoniens à Londres, les Anglais, ont fait des jeux extraordinaires, mais les Brésiliens, pour une première en Amérique du Sud, ont réussi les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Et puis, on est vraiment choyés de pouvoir y avoir participé. Et c'est drôle parce que c'est ma 5e participation et ils ont tous une couleur particulière et ils sont tous magiques à leur façon.
Non, ben on est content, écoute, d'entendre ça. On n'a plus de temps, mais je ne peux pas m'en empêcher, Benoît, de te le demander. Réponds-moi, s'il te plaît, en un mot ou en une phrase. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant?
On va réévaluer dans quelques semaines. Mais si j'avais 20 ans, là, Alex, je continuerais encore un autre.
Ouais.
J'aime tellement ça. J'adore ça, mais c'est bon. Je veux être compétitif. Alors, la compétition, c'est de plus en plus difficile à être parmi les meilleurs. Alors, je vais voir, okay. Je vais parler à ma famille, à ma blonde, puis on va voir qu'est-ce qu'on va faire.
Non, puis j'ai des confrères, j'ai au moins 80 confrères qui vont te poser la même question. La réponse va certainement évoluer. Qui sait? Peut-être qu'on se reparlera, ouais, à Tokyo. Benoît Huot, c'est toujours un plaisir, un grand, grand merci. Bravo pour ce palmarès éloquent, cette 20e médaille pendant ces Paralympiques à Rio. Puis une bonne fin de jeu, puis à bientôt.
Allez, c'est gentil, Alex. Merci beaucoup. Bye-bye.
Alors, d'une légende en devenir, parce que c'est ce que Benoît Huot est maintenant, on va revisiter un peu le passé avec Philippe Asselin. On a chacun une légende à vous proposer, une légende des Jeux paralympiques, bien évidemment. Et je vais commencer parce que celle dont Philippe va vous parler, elle a une couleur, une saveur spéciale, une saveur locale spéciale. Et moi, je le fais, la légende dont je vous parle, je le fais en clin d'œil aux Britanniques, berceau des Jeux paralympiques. C'est là que ça a été inventé. Alors, je vous parle de Mike Kenny, qui est un ancien nageur, le plus titré de tous les temps pour les Britanniques. Donc, l'athlète britannique le plus titré de tous les temps en Jeux paralympiques. 18 médailles, dont 16 en or. C'est son palmarès. Une histoire qui, écoutez, je ne sais pas si ça a déjà fait l'objet d'un film, mais c'est probablement le cas. Et sinon, c'est une idée pour les cinéastes à l'écoute. D'abord, élevé dans un orphelinat, ensuite adopté par une famille d'accueil, va faire des études très poussées puisqu'il deviendra ingénieur dans l'industrie nucléaire. Et c'est au travail, alors qu'il n'est âgé que de 26 ans, qu'il fait une chute bête. Quand on travaille avec des produits dangereux comme ça, on pourrait penser que le danger vient de partout. Mais non, il va tomber d'une échelle sur son lieu de travail et sera totalement paralysé à la suite de ça. Va retrouver certaines sensations, si tant est qu'il va se mettre à la natation au départ comme élément de thérapie, mais va tomber en amour avec la discipline jusqu'à s'inscrire aux Jeux paralympiques d'été de 1976 qui ont eu lieu au pays, à Toronto. Et c'est là que sa grande aventure paralympique va commencer. 3 médailles d'or en guise d'introduction. Des médailles qu'il va défendre à Anaheim ensuite en 1980. Et à compter de 1984 pour les Jeux de Stoke Mandeville et de New York, il va doubler sa participation, donc va participer à 6 épreuves et ce faisant doubler également ses récoltes de médailles. Alors en 84 et en 88 à Séoul, il va remporter 6 médailles chaque fois pour porter donc son total en carrière à 18 médailles. Monsieur Mike Kenny, né en 1945, toujours parmi nous, donc âgé de 71 ans, est toujours le médaillé britannique le plus titré de leur histoire. Philippe Asselin.
Et oui, moi, Alexandre, aujourd'hui, je vais vous parler du père de tous les athlètes paralympiques, ouais, au Québec. Je parle d'André Vigée. Donc, André Vigée est né un 27 septembre 1952 à Windsor, en Ontario, mais a grandi au Québec, dans la région de Sherbrooke. C'est à l'âge de 20 ans que sa vie bascule lors d'un accident de la route. Lui qui était passager d'un véhicule en 73, alors que son ami s'est endormi au volant. Et ce qu'il a, donc cet accident-là qu'il a... qui a fait en sorte qu'il est devenu paraplégique. Ouais. Et ensuite de ça, c'est là que l'histoire commence. Il s'intéresse donc au sport, lui qui est un grand marathonnier et un coureur donc en fauteuil roulant. Il a gagné la première médaille aux Olympiques en bronze aux 1500 mètres aux Jeux olympiques de Los Angeles. C'était la toute première fois qu'un sport paralympique était en démonstration aux Jeux. C'est là que l'histoire commence. Ensuite, aux Paralympiques, il a raflé 3 médailles d'or, 4 médailles d'argent et 3 médailles de bronze. Lui qui a participé à 5 Paralympiades. Il a surtout aussi créé sa légende au niveau des marathons, alors qu'il a remporté 3 fois le marathon de Boston et aussi ici à Montréal, alors qu'il a eu 5 victoires au Marathon international de Montréal entre 85 et 93. Et outre les performances sportives, il a surtout innové énormément lors de sa carrière, alors qu'il a construit lui-même son propre prototype de chaise roulante. C'est lui qui a popularisé la chaise à 3 roues en 89. C'était son prototype à lui. Et c'est un exemple vraiment pour tous les Paralympiens québécois qui, lorsque interrogés sur André Vigée, disent à quel point il a inspiré, donc notamment Chantal Petitclerc et plusieurs autres dans la discipline. Il est décédé malheureusement en 2006 d'un cancer à l'âge tout jeune de 54 ans. Et il a fait beaucoup de choses pour les personnes souffrant d'handicap ici au Québec, notamment une fondation et une boutique qui vend des chaises roulantes notamment. Donc, on lui doit beaucoup, je pense, au niveau du paralympisme au Québec.
Et c'était, c'était tout à fait à propos de terminer notre segment sur les légendes avec une qui en a inspiré d'autres. C'est absolument le cas de André Vigée. Et pour la dernière fois déjà, on va aller rejoindre notre collaborateur Vincent Lochman, qui est rédacteur en chef de Vivre FM. Vincent, qui se trouve à Rio, comment ça va?
Bonjour Montréal, bonjour Québec. Alors, oui, dernière fois, on part demain, hein, c'est déjà la fin, on est déjà un peu triste de devoir quitter le Brésil.
Et pour cette dernière fois, Vincent, est-ce qu'il fait beau où tu te trouves présentement?
Ouais, super beau, là je suis... au stade de voile. On vient de terminer une régate et les Français, le Français Damien Seguin vient de remporter sa course. On était là au pied du pain de sucre dans la baie de Rio et c'était vraiment un moment formidable. Et Damien, qui est un navigateur formidable, qui fait des courses au large, des grandes courses transatlantiques, il a remporté cette médaille d'or là sur un tout petit bateau à voile. C'est vraiment une grosse différence par rapport à ce qu'on peut voir d'habitude avec Damien, qui est plutôt sur des gros bateaux qui traversent l'Atlantique.
Depuis qu'on s'est parlé, Vincent, la délégation française qui a bien fait, on se taquinait un peu là, avec les performances canadiennes versus les performances françaises, mais votre équipe a repris du poil de la bête.
Oui. Ce matin, Nantenin Keita, c'est la fille du chanteur Salif Keita, du chanteur malien. Et Nantenin, elle a remporté une médaille d'or ce matin de l'athlétisme. C'était sa revanche parce qu'elle avait fait une contre-performance dans le 100 mètres. Et là, ce matin, elle a remporté le 400 mètres. C'était une course formidable puisqu'elle a gagné de bout en bout dès le départ. Elle était très en avance et jusqu'à la fin, elle a gardé son avance. Donc, très grande fierté pour toute l'équipe de France. Et puis cet après-midi, ici dans la baie de Rio, Damien Seguin qui gagne cette voile, cette compétition là à l'instant.
L'heure est au bilan, Vincent, on l'a dit, ça se termine demain. Déjà, vous retournerez en France. Qu'est-ce qui fera ces Jeux dans ton souvenir? Est-ce qu'il y a un élément en particulier qui se démarque?
Écoute, moi je trouve que tout ce qui crée de la solidarité, les Jeux paralympiques, c'est de la compétition, c'est d'abord du sport, et ça, c'est ça, évidemment que c'est formidable et que c'est très bien, surtout quand on gagne des médailles, on est très content. Mais il y a aussi des valeurs qui sont portées par ces Jeux paralympiques, et moi, je garde aussi ces images-là en tête. Là, ce matin, pour soutenir Damien Seguin, il y avait un groupe d'une quinzaine de jeunes Français en situation de handicap qui sont dans l'association qu'a monté Damien Seguin, le navigateur, en France, et qui pratique du bateau. Et Damien, il a beaucoup bataillé auprès de tous les clubs de voile en France pour permettre à des jeunes en situation de handicap et des moins jeunes de participer, de goûter les plaisirs de la mer, les plaisirs de la voile, de la navigation. Et ils étaient là ce matin sur la plage à Copacabana, au pied du pain de sucre, pour partager ce moment-là qui était vraiment très émouvant. Donc c'était... Voilà une image que je retiens, puis peut-être une deuxième. Hier, une partie de l'équipe de France, en particulier les judokas sont allés dans un quartier qui s'appelle Rocinha, une grande favela au cœur de Rio, et ils sont allés faire du judo avec des jeunes du quartier de Rocinha. Et c'était un moment formidable, un moment merveilleux de rencontre, et vraiment, il y a eu quelque chose, une grosse émotion là, de voir ces gamins, ces ados, essayer de battre des champions paralympiques en se bandant les yeux, en jouant le jeu, de se mettre en situation de handicap, c'était aussi un très beau moment.
Et d'un point de vue personnel, Vincent, cette expérience à Rio?
Ah, mais c'est toujours formidable ces Jeux paralympiques. Pour tout vous dire, on se lève très tôt parce que on fait un petit direct avec Paris le matin à 4h30. On se couche souvent très tard pour envoyer à Paris les derniers résultats de la soirée et qu'ils les aident dès le matin au réveil à Paris. Donc on passe comme ça, nous, l'équipe de Vivre FM, une dizaine de jours à pas beaucoup dormir, à être dans des grands moments d'émotion, à rencontrer des gens qui ont des projets formidables, des individus qui ont une énergie formidable. Donc c'est vraiment une expérience extraordinaire pour nous, radio communautaire, comme on dit chez vous à Montréal,
ouais,
d'être de partenaire, d'être engagé sur ce projet-là. C'est une belle énergie qu'on vient prendre ici.
Et un truc qu'on enviait, qu'on vous enviait, et on en parlait la dernière fois ensemble, c'est que les Jeux ont été télédiffusés pour une première fois en France. Les échos que tu en as, est-ce que ça a été une réussite?
Je crois que c'est une réussite. On fera un bilan complet peut-être la semaine prochaine quand on rentrera, mais déjà, les audiences ne se sont pas effondrées. Il faut dire que c'est une obligation, hein, c'est-à-dire que l'État français a dit à la chaîne publique France Télévisions, maintenant, on vous oblige à diffuser les Jeux paralympiques. Et la hantise, c'était que ça fasse fuir les spectateurs et qu'il y ait une mauvaise audience. Mmh. Non seulement il y a eu la quantité, c'est-à-dire les gens ont regardé les Jeux paralympiques, mais deuxièmement, France Télévisions a fait appel à plein de consultants et en particulier d'anciens champions des Jeux paralympiques et aussi des champions valides qui sont venus commenter les épreuves paralympiques avec leur regard de champion ou d'ancien champion valide. Et ça, du coup, il y avait une vraie qualité à la fois sur la dimension sportive, parce qu'on a vraiment commenté les épreuves de sport, et à la fois sur la dimension humaine pour raconter les parcours de ces champions.
Ben, on est heureux d'apprendre ça, puis on espère que ça fera des échos, ça aura des échos jusque de ce côté-ci de l'Atlantique. Vincent Lochman, ta collaboration à l'émission a été très, très précieuse. Je t'offre toute notre gratitude. Merci infiniment.
Merci beaucoup à vous. Bravo pour ce que vous faites. Et puis à très bientôt.
Oui, à très bientôt. Et on va te souhaiter.
Canalem ou sur Vivre FM.
Absolument. Une bonne continuation, Vincent. Au plaisir.
Merci. Au revoir.
Et le temps de retrouver Philippe Asselin une dernière fois avant la fin de l'émission. Vincent, forcément, les Jeux tirent à leur fin, donc le programme à surveiller rétrécit.
Il en reste pas beaucoup, il reste deux finales ce soir en athlétisme, alors que les hommes feront le 4x400 mètres en finale, ainsi que Jennifer Brown et René Forzett qui participeront à la finale en disque. En natation, on aura des finales pour Devin Cottell, Nicolas Guy Turbide et Gold Mitchie. Et on n'oublie pas demain la demi-finale, en fait la petite finale pour l'équipe canadienne de rugby en fauteuil roulant.
Voilà, une dernière occasion canadienne de bonifier la récolte de médailles. Et là, ben, je consulte furtivement mon fil Twitter, voir si on a annoncé la nomination de la porte-drapeau, du porte-drapeau pour la cérémonie de fermeture. Je vois rien. Alors, j'imagine que c'est à surveiller ça aussi. Philippe Asselin, un grand merci également à Vincent Lochman, qui était notre collaborateur sur le terrain aujourd'hui, le rédacteur en chef de Vivre FM. Merci à Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde, Christiane Campagna aux réseaux sociaux. Je m'appelle Alexandre Coupal. On se retrouve demain pour la dernière. Allez, salut!